Au Capi Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Jody Daniel Kachamou.
Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce magazine de la vie au quotidien au Capi Service. C'est un plaisir de vous retrouver encore ce matin pour vous servir. Comment valoriser et transformer localement les ressources minérales de la République démocratique du Congo? On en parle aujourd'hui avec Monsieur Georges Bokondou Mukuli, directeur de l'Observatoire des ressources minérales, SAROI. RDC, Monsieur Georges, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette magazine de la vie au quotidien. Et nous allons également recevoir tout à l'heure Monsieur Chims Mungulungu, professeur de droit, expert en droit minier. Des questions et préoccupations, appelez au 081-890-63-94, écrivez-nous également à service@radioocapi.net. Quels sont les résultats du sondage YouReport de l'UNICEF sur la grille des programmes de la radio-télévision nationale congolaise? Eh bien, nous allons en parler dans la deuxième partie de cette émission de la vie au quotidien avec Monsieur Médal Mbouya Almangal, sous-directeur chargé des enquêtes et magazines à la RTNC et doctorant à l'IFASIC. Voilà ainsi présenté le menu de cette émission. Pour participer à ce programme, appelez au 081-890-63-94, écrivez-nous également à service@radiocapi.net. Willem Lungamba, à la mise en onde, Tati Mapoukou réalise cette émission que coordonne Marcel Ngomombalakeba. Au micro, c'est Jody Daniel Kachama. Excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, heure de Kinshasa.
Encore une fois, bienvenue dans cette émission, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous parlons de la valorisation et transformation locale des ressources minérales de la RDC. Eh bien, la République démocratique du Congo est un scandale géologique, mais sa population demeure pauvre. Les produits miniers sont régulièrement exportés à l'état brut et servent à la fabrication des téléphones portables, des ordinateurs et autres appareils électroniques. Par ailleurs, le cobalt et le lithium sont plus recherchés dans la fabrication des batteries, des voitures électriques aujourd'hui avec la transition énergétique. Eh bien, les experts sont d'avis que nous pouvons localement développer une industrie de transformation de nos ressources minérales. On peut développer localement. Voilà. Alors, quels sont les préalables à réunir pour valoriser et transformer localement les ressources minérales de la République démocratique du Congo? On en parle avec Monsieur Georges Bokondou Mukuli, directeur de l'Observatoire des ressources minérales SAROI RDC. Monsieur Georges, encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez organisé la semaine dernière la cinquième conférence alternative Mining Indaba, dont le thème était comment valoriser et transformer les ressources minérales de la RDC. Pourquoi le choix de ces thèmes?
Merci d'abord, mon frère. Je voudrais d'abord juste une petite correction. C'est l'Observatoire des ressources naturelles de l'Afrique australe. En anglais, c'est Southern Africa Resources Watch.
D'accord.
Et merci pour la Radio Capi de nous donner cette occasion pour expliquer ce qui a été la cinquième édition de l'Alternative Mining Indaba. Cette cinquième édition vient pendant la période où il y a une grande discussion au niveau mondial sur la nécessité d'aller dans la transition énergétique que nous avons dans nos dans nos pays, dans le monde tout entier. Si nous avons voulu organiser d'abord la télé ou la conférence à Kinshasa, c'est parce qu'effectivement, il fallait rapprocher ces travaux-là avec les autorités. Vous l'avez dit, la RDC, c'est un scandale.
Géologique, comme on dit.
Géologique, mais à un moment donné, on commence à se dire qu'il faut faire attention lorsqu'il faut, il faut dire cette phrase-là.
Oui. Parce que lorsqu'on faire attention, monsieur
oui,
Georges.
Il faut faire attention parce que lorsqu'on se dit qu'on est scandale géologique et qu'on n'arrive pas à valoriser ces scandales-là, vous vous créez vous-même une utopie. On ne peut pas comprendre que nous avons une diversité de ressources minérales. Et la diversité que nous avons permet à secourir et à appuyer le monde entier, mais on reste à un niveau trop bas dans le développement. Nous avons ces cobalt, ces lithium, ces coltan, nous avons les cuivres, nous avons les diamants, nous avons l'or, si on considère ces grands minéraux. Et tous ces minéraux, même si on met de côté l'or ou les diamants, sont exportés en état brut. C'est-à-dire qu'on n'ajoute pas une valeur ajoutée dans leur traitement. Et lorsqu'on n'ajoute pas, c'est-à-dire qu'en réalité, les pays perdent. Parce que celui qui va aller traiter de manière définitive, il va avoir les produits finis. Ça ne sera pas seulement le cobalt.
Il aura les dérivés.
Il aura des dérivés. Et lui, il gagne.
Énormément.
Alors, nous avons réfléchi. Nous avons apprécié aussi que les gouvernements, à travers le ministère de l'Industrie, ait publié un rapport sur la politique industrielle du pays. Il a mis là-dedans cette question de transformation locale. Alors, lorsque nous avons organisé la conférence, il y a un expert qui a expliqué l'histoire. Comment les Belges pouvaient traiter le cobalt jusqu'à 99%. Cette époque, il n'y avait pas cette embellie ou cette obligation d'avoir le cobalt pour l'industrie actuelle, électronique et consorts. Comment la Gécamines pouvait traiter à l'époque à 99% et nous aujourd'hui on est entre 20 et 30%. Et lorsque la Gécamines traitait ça, elle en bénéficiait tellement autant que nous ne pouvons pas en bénéficier aujourd'hui. Donc la première des choses c'est que il est reconnu que nous avons près de 60% des réserves mondiales de cobalt. Donc nous sommes premier producteur mondial de cobalt, nous sommes premier producteur africain de cuivre, nous sommes premier producteur mondial de coltan ou la grande réserve de coltan dans notre pays. Lorsque vous avez ces potentialités, maintenant votre stratégie, votre politique, c'est de dire que ferons-nous avec ce que Dieu nous a donné pour participer à la régulation du monde. C'est-à-dire, quelles sont les stratégies que nous devons mettre en place pour que, effectivement, le Congo soit au centre de ces enjeux au niveau international? Est-ce qu'il faudrait-il continuer seulement à exporter ces minéraux à l'état brut ou semi-brut? Ou nous pouvons demander à ces partenaires qui achètent, au lieu d'aller traiter ces cobalt en Chine,
venez le faire localement.
Venez investir. D'abord, ça vous permet de diminuer même le coût des transports. Ça vous permet de diminuer certaines charges. Donc l'État approche ses partenaires, ce n'est pas une contrainte, mais c'est ça qu'on appelle les relations internationales, les intérêts au niveau international. Vous attirez ces investisseurs. Tout ce monde qui fabrique les batteries. Nous avons appris dans la AMI que les compagnies actuelles, leur rôle, c'est de produire les minéraux. Leur rôle n'est pas de transformer à 100% ou de transformer en produit fini, comme les batteries, les consoles, les téléphones. Non, leur rôle, c'est de produire. Maintenant, il faut inviter leurs acheteurs, parce que lorsqu'ils envoient à l'étranger, c'est pour vendre auprès d'acheteurs qui doivent maintenant aller traiter de manière définitive pour avoir les produits pour sur les marchés. Donc, l'État a l'intérêt de jouer un rôle au niveau international, à partir de son cobalt, à partir de son coltan, à partir de son cuivre. Vous savez que nous produisions à l'époque des câbles électriques avec la Treka, la Gécamines. Et ces câbles-là, aujourd'hui, nous pouvons l'acheter au Sénégal ou dans d'autres pays, pendant que nous avons les cuivres ici, qu'on peut moderniser cette usine, reprendre la production la comme production. Dans
les temps. L'usine s'est trouvée où à l'époque?
À Lubumbashi.
À Lubumbashi.
C'est en plein centre-ville de Lubumbashi. Mm. Et les installations sont là. J'ai eu la chance de visiter l'usine lorsqu'on devrait amener les câbles au Maniema pour l'électrification de la ville de Kindu. Donc, nous avons ces potentialités. Nous sommes un pays qui doit être au centre des enjeux internationaux par rapport à cette transition énergétique, par rapport à tout ce que nous avons aujourd'hui comme produit. Demain, ce sont... aujourd'hui, déjà, on a commencé avec les voitures électriques. Bon, il est vrai que nous allons produire, ce sont les autres. Il y a le ministre de l'Industrie qui a donné des exemples, hein, des montants que les mondes, les nombres d'abord de véhicules qu'on doit produire pendant telle année, et les nombres de téléphones, en faisant même des extrapolations sur les coûts, mais nous serons trop loin. Nous, on aura produit et les autres pays vont aller dans la finition, oui, et ce sont eux qui vont gagner beaucoup. Donc voilà pourquoi nous avons organisé la 5e édition d'Alternative Mining Indaba à Kinshasa, où nous avons convié beaucoup d'experts. C'était plus de 100 personnes qui étaient dans cette salle-là. Il y a eu beaucoup de réflexions et quelques recommandations ont été adoptées.
Alors, dites-nous, M. Georges Bokundu, quels sont les préalables pour valoriser et transformer localement nos ressources minérales?
Il n'y a pas de préalable extraordinaire. Parce que les premiers préalables, d'abord, vous devez avoir les minéraux. Nous les avons.
Nous les avons déjà.
Deuxième préalable, c'est que, il est vrai, ce débat autour de l'énergie, il faut renforcer la capacité de notre production en énergie électrique. Mmh. Et la troisième chose, c'est créer ces politiques de négociation avec les partenaires. C'est là qu'ils produisent, c'est là qu'ils vendent. Les amener à faire des montages ici pour qu'on installe ces usines ici au Congo. C'est une capacité de négociation que nous devons mettre en place. Mmh. Parce qu'ils en ont besoin. Mettez-vous en tête que nous devons produire, exporter plus de 60% de la production mondiale. Et qu'on dit, monsieur, venez ici. On ne peut plus exporter comme ça.
Les produits sont là.
Venez, les produits sont là.
Les transformer localement.
Et l'État doit mettre ce qu'on appelle la sécurité des investissements pour que ces gens-là comprennent aussi. Il y a des facilités. Parce qu'il ne faut pas aussi que, quand on invite les gens comme ça, qu'on ait des blocages.
Il faut assainir le climat des affaires.
Il faut assainir le climat des affaires.
Oui.
Et rassurer à ses partenaires qui n'ont écouté. Vous mettez votre investissement, tout est garanti. La sécurité est là. L'État apporte ce climat des affaires-là, de sorte que tout soit produit ici. Il y aura non pas seulement création de l'emploi, mais l'État va tirer suffisamment de moyens.
On va accueillir les auditeurs. Justin nous appelle depuis Fungurume et Jacob est à Kindu. Justin, bonjour.
Bonjour, M. Joudi. Et je dis bonjour à notre invité, M. Georges.
Quelle est votre question par rapport à la valorisation et la transformation des ressources minérales de la RDC?
Voilà. D'ailleurs, c'est une question que vous avez posée tout à l'heure à notre invité, M. Georges, qui a répondu correctement et il nous a convaincus. Cette question, laisse-moi d'abord vous féliciter les choix de sujets durant toute la semaine écoulée. Et même cette semaine, je crois que vous débutez bien avec les sujets qui tombent à notre aspiration ici dans le milieu rural. La valorisation de nos produits miniers dépend de nos autorités, puisque nous sommes sans ignorer que c'est nos ressources qui est à la source des guerres. Nos ressources qui sont à la source des cafillages au sommet de l'État. Nos ressources qui est à la source de la pauvreté de notre pays. Pour bien gagner, et il faut peut-être mater ou chercher quelqu'un dans des coins et lui influencer que faites ceci, portez des armes, on va t'écouter, soutenir. Et la population reste dans les misères. Donc la réponse c'est quoi? C'est nos dirigeants mettent cette question à la table. Ce n'est pas un mystère qui peut manquer de réponse. C'est un problème qu'on peut remettre sur la table et trouver une solution. Ils n'ont jamais mis cette question ou soit au Parlement, ou soit au Sénat, mais il y a toujours d'autres problèmes qui trouvent des solutions. La CENI, les élections, mais ils ne veulent pas au point même capital. C'est ça même la chute de notre pays. Si Si l'État prenait les obligations, dit que non, tu ne peux pas prendre les cuivres et les robots qui traitent ici, tel que notre invité l'a dit, nous allons gagner la main d'œuvre, il y aura des revenus qui vont rester, il y aura, donc, il y a beaucoup d'histoires qui vont rester à partir de cette question. Mmh. Mais je lui demande, est-ce qu'il a déjà, vérifié qu'est-ce qui est à la table de la ministère de l'Industrie? Et combien de budgets, combien de projets que le ministère de l'Industrie avait proposé pour être financé? Et sur ces projets qu'il avait déposés, il y a combien exécutés et il y a combien qui reste à exécuter? Et ça nous donnera, nous aussi ici, à avoir un œil regardant vers le haut, comme nous tournons vers seulement nos yeux vers le bas. Parce que si vous êtes ici, monsieur Jody, ce n'est pas l'exploitation, c'est le pillage de nos minéraux. Les tracts, il n'y a pas même là où on doit c'est à chaque minute, chaque heure, on passe, il est même 10 tracts chargés de minéraux bruts qui quittent le Congo vers l'Afrique du Sud. Mais la population, l'air a pollué. Et tout, nous restons en train de croupir dans des misères. Et
merci, Justin. D'accord. Oui. D'accord, c'est noté. Merci beaucoup. Jacob, vous êtes à Kindu, dans la province du Maniema. Bonjour. Bonjour, Jacob. Il n'est plus en ligne, il va certainement nous rappeler. Monsieur Georges, vous avez la parole.
Merci beaucoup, Jody. Je suis tout à fait d'accord avec Justin. C'est un souci pour tous les Congolais aujourd'hui.
Et lui parle même des pillages. Il dit pas, oui. C'est pas seulement l'exploitation, mais le pillage de nos ressources.
Donc, mettez-vous sur la route de Kolwezi à Lubumbashi seulement. Mettez-vous quelque part. Vous allez regarder. Ça ne peut pas passer 2 minutes sans que des tracts se suivent. 10 minutes sans tracts sur cette route, c'est rare.
Et c'est tous les jours comme ça?
Tous les jours. Parfois jour et nuit. Bon, on ne sait pas évaluer le nombre de véhicules par jour, mais c'est très important. Nous ne pouvons pas, je dis bien, nous ne pouvons pas reprocher à ces compagnies. On doit reprocher à l'État. Les compagnies industrielles aujourd'hui minières, leur problème c'est de produire. Il faut qu'on mette une autre chaîne de transformation. Il n'y a rien qui devrait nous interdire d'aller dans cette affaire.
De valoriser nos produits.
Dans l'atelier, tout le monde était un peu énervé.
Pourquoi?
Dans la conférence, parce que lorsque l'ambassadeur du Rwanda a expliqué pour dire que nous sommes dans un seul continent. Nous, les Rwandais, nous avons mis une usine
traitement de l'or.
Et vous savez le montant qu'il a donné? Il a dit chez nous, on a fait une usine pour 5 millions de dollars. Donc, le Congo peut en faire même 10.
Aujourd'hui, les Rwandais transforment l'or.
Oui, 5 millions. Et il n'a pas caché que cet or-là peut venir de la RDC. Ça peut venir des autres pays. Et ce n'est pas seul. Et aussi, ils ont leur petite minerai, une petite réserve. Mais ce qu'il dit, il y a même des Congolais qui peuvent amener leur or pour être traité là-bas et revenir vendre au Congo. Donc, nous, les Congos, nous pouvons avoir 10 usines de traitement de l'or. On peut l'installer à Kindu, à Bukavu, on peut l'installer à Ituri, à Isiro. Mais c'est notre capacité de vouloir développer ce secteur. Mais nous ne voulons pas.
Mais il faut qu'il y ait des investisseurs d'abord.
Non, papa. Et ils ont fait quoi pour avoir les investisseurs? Des 5 millions de dollars. N'oubliez pas qu'on a construit l'immeuble intelligent, c'est pas à moins de 100 millions. On ne dit pas que c'est mauvais, c'est une très bonne chose. Mais il faut avoir des usines, des industries qui vous permettent de faire entrer les devises, qui vous permettent de stabiliser votre économie. Nous n'allons pas nous contenter des miettes pendant que nous avons la possibilité d'en avoir autant. Donc, je suis tout à fait d'accord avec l'ami Justin.
Justin, oui.
Effectivement, la province du Lualaba, comme du Haut-Katanga, a cette importance capitale dans la régulation, non pas seulement de notre économie, même faire face à tout ce qui est comme aujourd'hui transition énergétique. Mais qu'est-ce que nous faisons? C'est-à-dire qu'on se contente de ce que nous avons, parce qu'il y a des millions qui entrent, mais on oublie que nous avons besoin de 20 milliards, de 30 milliards, mais on se contente de 4 milliards, pendant qu'on peut faire les doubles. On peut faire les doubles. Est-ce qu'il faut laisser tous ces véhicules qui sortent tous les jours avec des minéraux bruts ou semi-bruts? Qu'est-ce qu'il faut réfléchir? Le ministre de l'Industrie nous a présenté ce qu'il a sur papier. C'est une projection. C'est vrai, on ne peut pas dire que non, c'est aujourd'hui qu'on
le projet
exister.
D'industrialisation
mais de
la RDC.
Les pauvres, avec ces services, qui ont monté ces projets, c'est politique. Il doit avoir l'argent. C'est du gouvernement tout entier. Si la volonté du gouvernement n'est pas de financer les actions qu'il a mis là-dedans, parce qu'il les a détaillées dans la salle.
Mais c'est bien fait, c'est bien structuré.
Nous avons aimé quand le président de la FEC aussi était là-dedans. Il a expliqué, tout le monde a ses soucis, mais ça bloque à quel niveau? Parce que peut-être, on doit privilégier de payer d'abord le fonctionnement de l'État. Est-ce que dans les années passées, là où nous avons les exportations de cacao, les exportations de café, les exportations des autres produits agricoles, pourquoi ce moment-là, ça fonctionnait? Pourquoi les berges ou la Gécamine, l'Union minière pouvaient traiter les cobalt à 99% et que nous, aujourd'hui, on doit les produire à 20% ou 30%? La raison qui va venir, les opérateurs ou l'État perdent, non, voilà, c'est l'énergie. Mais les Belges ont construit des barrages. Nous avons autant de micro-centrales qu'on peut créer avec beaucoup de chutes. C'est identifié par les ministères de l'hydraulique ou de l'électricité. Des centrales qu'on peut installer.
Parce que ces usines auront besoin d'énergie en permanence.
On a besoin d'énergie. Il y a des projets au Katanga, des individus, des privés. Mais est-ce que l'État ne peut pas pousser pour qu'effectivement ça puisse combler les vides que nous avons? Il y a des initiatives.
Il y a les projets de Inga 1, Inga 2, Inga 3, tout
oui,
ça.
Oui, parce que dans les pays comme... On revient tous les jours. Les Rwandais commencent à prendre l'histoire de l'or aujourd'hui. Et le Botswana qui développe son usine, son diamant localement, il s'est bien arrangé avec des bourses, il s'est bien arrangé avec son investisseur, son partenaire, pour dire, écoutez, c'est vrai, la bourse doit être ici, on doit traiter ici au Botswana.
Mais on peut trouver des investisseurs qui investissent d'abord dans la production énergétique.
Oui.
Et les autres, bon, investissent dans,
oui, mais est-ce
dans
qu'on
le traitement des minéraux.
J'ai toujours donné l'exemple de Kibali. Kibali a fait son projet minier. Il a intégré tous les aspects là-dedans, même l'usine de production de l'énergie électrique. C'est pas l'État qui est allé faire ça à Durba ou à
Ituri.
En province de Haut-Uele.
Dans les Haut-Uele.
Oui, à Kibali. Ce n'est pas l'État qui est allé construire. Il a intégré dans son budget d'investissement que ce soit la production de la mine et la production de l'énergie électrique. Donc toute compagnie sérieuse qui vient, qui trouve ces coins-là, il n'y a pas de l'énergie, il doit intégrer dans son programme cette aspect
la production de l'énergie. À l'instant, on va accueillir un auditeur. Malonga de Bandounouville. Bonjour.
Bonjour, Jotil. Bonjour, notre invité. Et bonjour à tous ceux qui nous suivent.
On vous écoute, Malonga.
Ok, merci, Jotil. Merci pour me donner la parole. Jotil, est-ce que vous savez que pour chercher à valoriser notre ressource minérale, c'est ce qui nous crée des zéros, c'est ce qui nous crée des problèmes. Vous savez, si lorsque... Je commence ici même, lorsque Lumumba a voulu faire cela, ça lui a coûté. Lorsque Mouzoura Désiré Kabila, nous sommes témoins, lorsqu'il a voulu créer une usine à Lubumbashi pour la production des armes par notre propre minerai, ça lui a coûté. Alors, moi je vois que pour initier d'abord cette valorisation, dans le mois de tous les Congolais. Je dis à notre invité, moi, j'implore ceci. Il faut d'abord entrer à la conscience de tous les Congolais. Pourquoi? Parce que nous sommes aliénés déjà. Que si nous ne sommes pas vraiment attachés à l'extérieur, nous ne pouvons pas faire de nous-mêmes une chose vraiment expérimentale. Alors, s'il y a une éducation d'abord, une éducation civile, civique, de ce côté-là, peut-être il n'y aura pas de trahison entre nous. C'est une bonne idée. Ce que l'invité vient de commenter, c'est pas très bien, c'est très très bien. Et ils nous ont déjà dit de faire non, il parle seulement comme ça et il n'osera pas de le faire. Mais si quelqu'un ose, comme nous avons notre chef de l'État là-bas, si il ose d'imposer qu'il n'y a pas de problème d'exploitation, il faut ouvrir l'usine au Congo pour la fabrication de cela, vous verrez que nous pouvons, en tout cas, je ne le souhaite pas, nous pouvons les perdre. Moi, je suis sûr, puisque nous avons des exemples. Alors, moi, je vois qu'aujourd'hui, nous sommes les Congolais, la radio Kapi est également congolaise. Alors il faut chercher une émission, il faut chercher des séquences pour que peut-être nous pouvons atteindre à 70% des Congolais qui auront la conscience s'ils voient qu'il y a cette initiative de valoriser nos ressources minérales. Nous pouvons se réunir en collège pour soutenir cette idée. Mais
d'accord.
Si je commence cette idée, et moi je suis contre, je vais les trahir. C'est ce qui est très difficile aujourd'hui.
D'accord, on a compris Malunga. Merci beaucoup, on a compris votre préoccupation. On va accueillir M. Mutombo de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour Monsieur Jody, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de Radio Kapi.
Quelle est votre question, Mutombo?
Oui, je vais intervenir sur ce point en disant que nous parlons de la RDC comme scandale géologique. Pourtant, nous ne tenons pas compte de la main d'œuvre qui doit travailler dans des nouvelles entreprises que nous aspirons. Je pose la question à l'invité qui est avec vous là-bas. Comment on ne peut pas assainir l'enseignement de géologie dans nos universités pour pouvoir les adapter avec des réalités actuelles, pour pouvoir bien produire? Il ne faudrait pas qu'on puisse appeler les investisseurs. Par après, on va commencer à se dire, on n'a pas la main d'œuvre qualifiée, nous allons recourir aux Chinois, aux Libanais. Mais il faudrait au préalable commencer d'abord à préparer la main d'œuvre qui se trouve dans nos institutions de géologie pour avoir une formation actuelle en géologie, pour ne pas avoir encore de nouveaux problèmes qui se posent souvent en RDC.
Merci Mutombo. Glody Bouanganga, vous êtes aussi à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de radio.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la valorisation de nos ressources minérales?
Oui, merci. Je pense que mes prédécesseurs ont déjà parlé. Vous savez sans doute, la RDC est parmi le pays scandale géologique, mais nécessairement rien nous faisons avec ce scandale géologique. Moi je peux dire, c'est juste un slogan, rien ne marche. Vous savez, nous devons redynamiser notre valeur. Vous savez, la RDC a perdu sa valeur. Vous savez sans doute, à l'époque de M. Mobutu, la RDC était parmi le pays qui produisait des cobayes au monde, des produits agricoles. Mais aujourd'hui, dans les classements mondiaux, on n'existe presque plus. Il est question à tous les Congolais s'asseoir autour du table, de bien parler sur ça et de proposer des solutions. Nous avons des experts congolais qui sont allés étudier en étranger et qui sont rentrés ici au pays. Mais à des fois, ils font des projets, ils déposent au niveau du gouvernement et à des fois, peut-être, vous allez voir, ces projets-là, ils négligent. Le gouvernement n'était pas contre ça. Bon, c'est ça, peut-être, nous sommes en train de perdre nos valeurs. Mais moi, j'aimerais que le gouvernement congolais puisse mettre d'abord la politique, la bonne volonté, la bonne gestion. Je pense qu'on peut quitter dans ces pays. Si vous demandez la question à tous les Congolais, pourquoi aujourd'hui tous les Congolais préfèrent aller en Europe? C'est parce qu'ils sentent que là où il est, il n'y a rien. Ils préfèrent aller vivre ailleurs, peut-être là où il part, il peut se retrouver. Moi, je pense que, monsieur le député, vous êtes là à expert dans le domaine de minéraux. Vous, théoriquement, pratiquement parlant, qu'est-ce que vous proposez? Parce que à l'heure qu'il est, il n'est plus le temps de parler, de faire des poèmes, des discours, ça n'a pas de sens. C'est question de mettre les choses au sérieux. Qu'est-ce que vous proposez? Parce que je suis sûr et certain, la radio Kapi, la radio nationale, partout en RDC, on écoute la radio Kapi. Avec vous, on peut quitter à ce stade que nous sommes. Parce que vous savez, la RDC est... À l'époque, on était classé parmi les trois premiers pays du monde qui produisaient des cotons, des cobayes, des histoires comme ça. Mais on existe presque plus. Le Rwanda, aujourd'hui, commence à fabriquer les ordinateurs. Le Rwanda s'est développé après nous. Nous,
bien, merci.
À l'époque,
merci,
la RDC était parmi les pays les plus développés. Le Rwanda n'existait presque pas. Mais aujourd'hui, on existe presque plus. Le Rwanda a pour problème. Donc,
bien.
C'est question pour nous de s'asseoir autour d'une table, de prendre les histoires au sérieux. Vous savez ce qui nous tue les Congolais, c'est qu'on est négligent.
Merci, Glody.
Quelqu'un vous le dit, des gens qui sont sérieux.
Merci, Glody. L'invité va répondre. Merci beaucoup, monsieur Georges. Vous avez la parole.
Non, merci beaucoup. D'abord, je vais commencer par Glody. Peut-être en termes de développement ça va, mais la RDC est toujours classée, la RDC est encore pire, premier producteur mondial du cobalt, et nous sommes parmi les plus grands producteurs du cuivre au monde, et nous sommes premier producteur africain du cuivre. Donc nous sommes toujours dans ces classements là
oui, dans les top. Ouais.
On a même développé, mais le problème, comme vous l'avez dit, en termes d'économie, en termes de développement, on ne se retrouve pas. pendant qu'on était classé trop loin, il y avait effectivement une stabilité avec les la première période de Mobutu. On ne peut pas dire que c'est toute la période de Mobutu, non. La première période, c'est l'économie était stable, la Gécamines était très forte. Mais on a détruit la Gécamines pour arriver au stade où nous sommes aujourd'hui, malgré les efforts qui sont portés par les comités actuels. Je reviens sur Malonga.
Monsieur Malonga nous dit que si quelqu'un veut arranger les choses dans ce secteur de mines, vous risquez de perdre la peau parce que il y a tellement des intérêts, il y a des gens qui voudraient qu'il y ait l'insécurité, les cafouillages, comme ça, ça les profite.
Dans les travaux des amis, on a noté des déclarations selon lesquelles tous les pays sont interdépendants dans une certaine mesure. Effectivement, ne croyez pas que parce que vous avez, vous pouvez interdire tout le monde d'y accéder. Donc, la politique de chaque pays, c'est de regarder comment créer ses relations avec les autres États, avec les autres pays, avec les autres qui en ont besoin. Vous n'allez pas interdire aux Américains d'accéder à votre lithium pendant qu'ils en ont besoin. Mais parce qu'ils en ont besoin, quels sont les mécanismes de relations économiques que vous allez placer avec ces gens-là? Donc, on ne peut pas dire que le président de la République va interdire l'exportation. Non. Les présidents, les gouvernements doivent mettre des mécanismes propres, doivent sécuriser les investisseurs pour les amener ici, les rapprocher, parce qu'ils ont besoin de ces minéraux-là. Vous les interdisez, effectivement, ils peuvent faire la guerre. Vous les interdisez.
Mais il semble d'ailleurs que toutes les bandes armées que nous avons à l'Est, c'est toujours autour des carrés miniers.
Oui.
Généralement.
Ça aussi, c'est relatif. Il y a beaucoup de problèmes là-dedans. Mais dans le monde actuel, ce sont les intérêts qui comptent. La Chine a besoin du coltan ou du cobalt. La Chine traite 60% ou 80% du cobalt qui viennent du Congo seulement. Vous n'allez pas l'interdire. Mais vous dites, mais parce que vous avez besoin. Moi, j'ai ça. Pourquoi je dois transporter tout? Toi, tu viens
ici.
On traite ici. Toi, tu gagnes. Tu vas aller vendre les produits finis dans le monde entier, vos batteries dans le monde. Mais au moins, on l'a produit ici.
Ici. Et nous aussi, nous gagnons.
Oui, nous gagnons, aussi, nous gagnons. Oui. Et vous sécurisez l'investissement chinois pour qu'il se retrouve. N'allez pas dire, non, voilà, non, la Chine amène les saisines de traitement ici. On arrache. Où on ne va plus envoyer les coltan là-bas, non, les cobalt là-bas, non, non. Ce sont les relations, les négociations qui se font et que l'État dit non, non, écoutez, venez ici, moi j'ai ça, toi tu amènes l'investissement. C'est déjà la même chose, comme dans les partenariats que nous avons. Mais le développement, quand on voit Kamoa, ou on voit KCC, on voit TFM, mais ce sont les autres qui ont amené l'argent. On les a sécurisés jusque là, ils produisent. C'est la même chose dans l'autre étape de traitement définitif des minéraux, nous demandons à tous ces partenaires de venir. Et ce sont des... J'apprécie qu'on nous a annoncé qu'il y aura au mois de novembre où tous les fabricants de batteries vont être ici. Et des autres
les
appareils.
Les batteries des véhicules électriques.
Donc tous ces gens-là...
Tous ces fabricants-là viendront ici.
Ils viendront ici en novembre. J'espère que le gouvernement va finaliser. C'est le moment de mettre des mécanismes clairs avec ses partenaires pour qu'effectivement qu'ils viennent ici. Ils vont construire des usines, nous allons avoir des emplois, l'économie va bouger et l'État va en profiter. Et aussi vont en profiter.
Un instant, on va accueillir le professeur Chims Mungulungu. Il est professeur de droit, expert en droit minier. Professeur Chims, bonjour.
Bonjour, monsieur Jeudi.
Bienvenue dans cette émission qui s'intéresse à la valorisation et à la transformation locale des ressources minérales de la RDC. Alors, d'après vous, professeur, qu'est-ce qu'il faut pour arriver à ces buts, à valoriser et à transformer localement nos produits minérales, nos ressources minérales?
Merci pour la question, au fait. La question le problème est pertinent parce qu'aujourd'hui, le secteur minier, dans le cadre de la richesse, par rapport à la richesse du pays, pose problème. On le dit, le Congo, la RDC, est un scandale géologique. Mais concrètement, on ne sent pas la retombée de cette richesse vis-à-vis du quotidien de la population. C'est tout simplement parce que la gestion du secteur minier, pour moi, pose problème. En fait, le législateur a bien vu de faire du traitement des minéraux une des obligations, une des innovations du code minier. Parce que c'est dans le cadre de l'industrialisation du secteur minier qu'il est aujourd'hui fait obligation aux titulaires du droit minier d'exploitation, principalement, d'effectuer le traitement des substances minérales sur les territoires nationaux. C'est ce qui ressort d'ailleurs de l'article 108 ter du code minier. Mmh. Ce n'est que de manière exceptionnelle que les substances minérales brutes peuvent être traitées à l'extérieur du territoire national. Il faut également savoir, monsieur, je dis qu'à l'exception du permis d'exploitation, nul ne peut procéder au traitement des substances minérales sans en avoir reçu l'agrément au titre d'entité de traitement ou de transformation octroyé par le ministre des Mines. C'est ce qui découle de la définition de l'entité de traitement reprise à l'article 108 quater.a du code minier. Et d'ailleurs, l'article 81 du code minier se rapporte au droit d'effectuer les traitements ou la transformation des substances minérales. En définitive, on peut remarquer que le traitement et la transformation des substances minérales au pays augmentent la valeur ajoutée des produits miniers au bénéfice de l'économie nationale. Ce serait une perte pour l'État que de laisser les minerais extraits soient exportés à l'état brut vers d'autres pays. Il faut impérativement procéder par des méthodes minéralogiques et ou métallurgiques pour obtenir une substance minérale commercialisable à partir des minerais extraits. Il faut donc, comme l'a si bien souligné votre invité, il faut donc valoriser les substances minérales extraites. Les autorités rwandaises ont bel et bien compris la donne. Et c'est comme ça qu'on a installé au Rwanda une raffinerie d'or. Est-ce que le Congo, la République démocratique du Congo, manque de moyens pour installer au Congo différentes raffineries d'or, de coltan pour faire bénéficier l'économie du pays? Moi, j'ai l'impression comme s'il y a un manque de volonté. C'est comme si les gens sont distraits. C'est comme si on ne veut pas comprendre, on ne veut pas voir la réalité en face. Tant que les minerais seront extraits et seront exportés à l'état brut sans être traités au Congo, soyez-en sûr qu'on ne peut pas espérer avoir une augmentation des recettes fiscales au pays. Il est très important qu'une politique, un effort soit fait dans ce sens-là, oui, pour aider la République démocratique du Congo à occuper réellement son leadership. Parce que c'est une honte quand même. Un pays qui est mondialement reconnu, premier en Afrique, comme vient de dire votre invité, en production du cuivre. Mais malheureusement, nous sommes incapables d'installer des usines de traitement. Et l'obligation qui est faite à ces opérateurs miniers, qu'est-ce que l'État congolais fait de ces obligations? Pourquoi c'est le laxisme qui doit continuer dans ce secteur? Il est grand temps qu'on mette un point, qu'on se regarde en face, qu'on prenne le courage de dire la vérité et d'appliquer réellement le droit que les législateurs l'a adopté. Mmh. Sinon, on va continuer à faire des émissions, on va rester éternellement sur des projets, des idées, mais du concret. La population, à ce stade, a besoin du concret.
Du concret.
On veut voir les retombées de l'exploitation de nos richesses. Sinon, ça va servir à quoi?
Donc, et surtout que vous l'avez dit, l'article 108 du code minier le prévoit déjà.
Oui, c'est une obligation, il n'y a pas en marchant de pas. C'est-à-dire un opérateur minier qui n'est pas en mesure de traiter sur place les minéraux extraits, mais on peut retirer, on peut lui retirer le titre. C'est une des probabilités. Plutôt que de continuer à laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Au fait, on a longtemps, il faut avouer, il faut reconnaître que les opérateurs miniers savent pertinemment bien que certaines autorités, ou même la population, surtout les populations locales, ne maîtrisent pas la loi minière congolaise. Ils profitent de cette ignorance pour faire ce qu'ils veulent faire réellement. Alors que c'est au pouvoir public qu'il revient cette prérogative de contraindre ces opérateurs miniers. En rappelant tout simplement que oui, vous venez investir, vous mettez les moyens en jeu, oui, vous allez faire des bénéfices, mais entre-temps, qu'est-ce que la population, qu'est-ce que l'État congolais gagne concrètement? Sinon, vous allez continuer à faire des émissions, on va continuer à rappeler, on va continuer à insister, on n'aura pas la solution tant que la loi ne sera pas appliquée comme il le faut. Parce qu'aujourd'hui, c'est une obligation. Ce n'est pas avant la modification du code minier, c'était une probabilité. Mais là, maintenant, ça devient une obligation.
Une obligation.
Alors, il faut réellement appliquer la loi. Si on n'applique pas la loi et on continue avec cette ambivalence et l'actisme, le secteur minier ne connaîtra pas son essor.
Bien.
On va dire ce qu'on veut, mais on n'aura pas résolu le problème.
Bien, professeur Tim Mungulungu, je rappelle que vous êtes professeur de droit, expert.
Mungulungu, voilà.
Merci d'avoir participé à cette émission. Excellente journée et à la prochaine.
Je vous en prie, merci bien.
Monsieur Georges Bokondou, votre réaction?
Vous savez, dans le cadre de mon organisation Sarwa, la tendance, l'idée, c'est effectivement d'attirer l'attention du gouvernement. Et on ne doit plus dormir, surtout pendant cette période où cette nécessité au niveau international va demeurer pendant autant d'années. Est-ce que vous pouvez comprendre, comme je l'ai dit, les profs viennent de revenir, que le Rwanda construit sa raffinerie pour 5 millions de dollars.
Seulement
5 millions de dollars. Et que le Rwanda ne vous interdit pas, vous, de construire les vôtres. C'est comme aujourd'hui, nous avons les usines de pain. C'est-à-dire que chacun de nous peut aller.
Oui,
on peut aller, en avoir.
Bien sûr.
Le marché est ouvert, le marché est large. Mais nous, on rêve. Mais le pire, est-ce que vous pouvez comprendre que nos minéraux là, brites là, ou concentrés, qu'on prend au Congo, on traverse avec ça en Zambie. À quelques kilomètres de notre frontière, les Zambiens sont tentés de traiter là-bas. Les minéraux qui viennent ici, les mêmes opérateurs qui ont produit ici, ils amènent dans leur dans une usine ou des usines de la Zambie.
Mais vous le professeur a dit que là, oui. C'est prévu, le code minier le prévoit. C'est une obligation.
Oui, mais chez nous, ce sont des exceptions que les gouvernements prennent pour autoriser aux autres qui donnent des motivations qu'on n'a pas de l'énergie. C'est-à-dire que l'opérateur, vous souvenez, il y a eu une réunion à Lubumbashi où on est tenté de regarder comment donner ces exceptions parce qu'on n'a pas encore peut-être la capacité de desservir énormément les miniers. Donc, on donne, on espère.
Mais vous avez pas donné le cas de Kibali aujourd'hui.
Oui, c'est ça. Pourquoi les opérateurs, pourquoi les gouvernements, avec les potentialités en termes des micro-centrales qu'on peut avoir dans les pays, on ne peut pas aussi motiver et puis pousser. Dans d'autres coins, il y a des entreprises dans les temps, de l'époque coloniale, il n'y avait pas toujours des barrages. Il n'y avait pas suffisamment. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Parce que c'est ça aussi l'histoire qu'il faut interroger. Lorsqu'on commence à nous montrer, depuis que le Léopold D a mis ses pieds dans ces pays, quelle a été la quantité ou les quantités que les Belges ou Léopold D avaient produit à l'époque? Il produisait comment? Comment il exportait? Comment on pouvait arriver à traiter à 99% à l'époque? Pourquoi? Ce sont des questions qu'on se pose. Pourquoi la Gécamines a produit autant pendant cette période? Il y a eu la Tréca. Mais l'histoire aussi qui a énervé les gens dans la salle. Avec la production de la Gécamines ou l'union minière, autant de millions de tonnes, si c'est 7 millions de tonnes, on nous a montré combien d'écoles ont été construites, combien de stades ont été construits, combien de villes ont été construites. C'est parce qu'il y avait beaucoup de mécanismes de percevoir les retombées ici localement. Mais aujourd'hui, on n'aimait pas ces mécanismes. Le problème, c'est quoi? Il y a eu développement, il y a eu évolution. Nous, on ne suit pas l'évolution. On reste comme tel. Il y a Mutombo qui a parlé des questions de la géologie qu'il faut assainir.
Adapter notre système d'enseignement. Il faut former des géologues par rapport à tout ça.
Il y en a. Je crois qu'on forme les géologues à Lubumbashi, on les forme à Kinshasa. C'est pas seulement les géologues tessels. Il y a des métallurgistes qu'il faut former. Il y a des économistes qu'il faut former. Il y a des miniers qu'il faut former. Est-ce qu'on ne forme pas? Et puis, dans ces domaines-là, lorsque vous manquez les capacités, l'opérateur peut importer. Il peut importer parce qu'il faut renforcer la production.
Mais c'est ce qui se fait actuellement.
Vous
allez dans le Lualaba, on prend les...
Mais tout le monde qui vient là. Oui. C'est-à-dire que nous, on doit juste augmenter le nombre des écoles de formation. Des formations techniques. Mmh. Mais malgré ça, il faut qu'on arrive à cette valorisation. On peut en avoir, mais si on ne valorise pas ici, nous allons nous contenter des miettes que nous recevons. Et notre budget va rester toujours à 4 milliards. On rigole. En réalité, on nous critique, on nous traite comme si on n'a pas ces capacités, ces compétences.
Mais peut-être qu'il faut d'abord commencer à combattre la fraude et la corruption exagérée dans ces secteurs.
La gouvernance d'un pays va de pair avec tous ces aspects-là. Tu ne vas pas bien gérer l'argent sans combattre la fraude, la corruption. Tu ne vas pas bien gérer l'argent sans aussi bien payer les gens. Tu ne vas pas bien gérer la société sans que tous les mécanismes et les principes de bonne gestion ne soient appliqués. Donc, c'est pas avec dans les initiatives comme ITIE sont venues, il y a des contrôles par-ci, par-là, où les autres nous regardent. Vous pouvez comprendre qu'on commence à fabriquer les téléphones au Rwanda. Vous pouvez comprendre que le Botswana développe sa propre mine de diamants au Botswana. Et que l'Ouganda est tenté de créer aussi sa raffinerie d'or. Mais nous qui sommes producteurs, non, on dit, ok, non. Nous, on va commencer à renflouer seulement les marchés avec les Brits. Mais on rigole de vous. C'est-à-dire, on va pas vous prendre au sérieux.
Les diamants de l'Amiba. D'ailleurs, vous avez publié un rapport sur ça. Oui. À qui profite le diamant de l'Amiba?
Mais comment peut-on comprendre que les diamants Kasai Mbujimayi, qui était appelé la capitale mondiale des diamants, restent par derrière, et que les autres se développent? Les pays comme la Namibie, l'Angola, le Botswana, ils continuent à moderniser leur industrie.
Alors que la population de Mbujimayi, c'est la pauvreté.
Oui, mais
aujourd'hui,
c'est combien de millions qu'il faut injecter dans l'Amiba pour reprendre l'Amiba telle qu'elle était? Parce que lorsque vous reprenez l'Amiba, vous reprenez la Jekamine, vous reprenez la Sakima, vous reprenez Kisengemanga. Donc, toutes ces grandes sociétés, vous injectez de l'argent. Ces entreprises vont commencer à produire et vous mettez des systèmes de contrôle efficaces. L'État va revenir avec les minimums pour son pays.
On va accueillir des auditeurs, Laurent de Kananga et Maître Machaka de Lumbashi. Laurent, bonjour.
Bonjour, Maître Dodi, c'est Laurent Mouy. Merci pour cette émission. Merci pour le procès que vous me donnez. Je salue l'invité, mais aussi tous les auditeurs de la Radio Capi.
Rapidement, ouais. Laurent, quelle est votre question? Rapidement.
Monsieur, je dis dans mon commentaire sur Facebook que je parlais concernant la non-valorisation, mais aussi la transformation des nominaires ADC. J'avais soulevé quatre problèmes. Je parlais sur l'irrespect et l'inapplication du cadre juridique, mais aussi de notre budget qui est médiocre, un budget qui ne permet pas qu'on puisse construire les industries. J'ai parlé aussi de la qualité des dirigeants. Les leaderships que nous pouvons avoir dans notre pays.
Bien, merci. Maître Machaka, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. Bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
On vous écoute, maître.
Oui, monsieur Jody. Vous savez, j'ai une observation, monsieur Jody. Vous savez, aujourd'hui, la question que je vais poser à l'invité avant que je puisse passer à l'observation. À l'époque où on avait seulement la Jekamine comme la société minière d'État, et à l'époque où maintenant nous avons une multitude de sociétés privées minières, je ne sais pas, c'est à quelle époque l'on peut dire que non, l'État est bénéficiaire et la situation sociale de la population est bien améliorée. Je crois que nous vivons la catastrophe pendant cette période. Je crois à l'époque de Moïse ici, il avait imposé aux étrangers d'installer leurs usines ici pour extraire les minerais ici. Je crois qu'il y a beaucoup de sociétés qui ont commencé à démonter leurs usines à partir de la Zambie pour amener ici à Lubumbashi. Et c'était quand même avantageux au peuple congolais puisque la main-d'œuvre était prise ici, une main-d'œuvre congolaise. Maintenant, aujourd'hui, vous savez, avec l'importation des matières brutes, nous perdons beaucoup. Ils importent. Par exemple, ils exportent, c'est le cuivre, c'est ce qu'ils déclarent. Mais à l'intérieur, là-bas, il y a d'autres minéraux. Nous vivons aujourd'hui avec les déchets de la Jekamine ici. On considérait comme déchets. Mais aujourd'hui, on est encore en train d'extraire ça pour faire sortir de l'or et qu'on sort. Alors, c'est question de la responsabilité de l'État congolais, M. Jody. L'État congolais doit prendre ses responsabilités et imposer
On est ces entreprises-là.
On les fait voir.
D'accord.
On les fait voir les avantages et les conséquences pour que l'État congolais et les peuples congolais puissent jouir quand même de leurs richesses, M. Jody.
Merci, Maître Machaka. Alors, M. Georges Bokundu, est-ce qu'on peut dire que les retombées de cette cinquième conférence minière sont déjà sur la table du gouvernement, du Premier ministre?
Les rapports vont être transmis cette semaine au Premier ministre, même au cabinet du président de la République, au ministre des Mines.
Des Mines.
Et tout le monde, tous les acteurs qui sont impliqués. Vous savez, je réagis pour les propos de Maître Machaka. Lorsqu'on compare les deux périodes, comme il a dit, la période de la Gécamine et la période actuelle, et vous allez peut-être avoir la maladie, ou alors il faut juste dire que non, la Gécamine était à 100% l'État. La Gécamine était gérée par l'État. Mais n'oublions pas, j'ai toujours dit, mais la Gécamine n'avait que au Bocon, je crois, en Belgique. Mais tout partait là-bas, à Bruxelles. Il y avait combien d'emplois à Bruxelles? Donc les systèmes, les deux périodes, normalement nous ne devions pas nous inquiéter, si on était sérieux. Parce que si la Gécamine produisait sel et que les revenus revenaient sel, la loi actuelle impose aussi aux compagnies, oui, vous exportez, vous vendez, mais il faut ramener 60% ici. Mais après avoir fait ceci, les 100% doivent être restés. C'est un suivi.
On nous a dit qu'à l'époque, Moïse a demandé à ses
entreprises. Oui, Moïse a demandé, il a même pris des édits pour l'interdiction, l'histoire des concentrés. Il y a des édits qui faisaient entrer beaucoup d'argent. Mais oui, mais quand vous interdisez, la loi actuelle interdit, maître le prof a dit ici, vous ne pouvez pas exporter les matières brutes comme ça. Ça doit être une exception. Mais l'exception devient aujourd'hui la règle. Parce qu'effectivement, on ne sait pas maintenir cette imposition parce que. Mais il faut donner aussi cette facilité à ces compagnies. Parce qu'en tant que Congolais, nous ne devons pas dire, c'est comme si on est toujours contre les opérateurs. Non.
Non,
nous, on doit avoir, et les opérateurs, on doit avoir un regard vers l'État. Quelles sont les faiblesses de l'État? Quelles sont quelles sont les faiblesses des opérateurs? Pourquoi les opérateurs ne viennent pas avec toutes les chaînes ici? Mais il faut aussi savoir que ces opérateurs, dans la chaîne de production, il y a une étape pour ceux qui sont là aujourd'hui et d'autres doivent venir pour finaliser. Il faut inviter les autres. La question des respects d'application cadre juridique.
Oui, mais il a parlé aussi du budget. Est-ce que le budget actuel peut permettre au gouvernement de construire des raffineries?
Non, ne parlons pas. Parce que ça peut énerver les gens. C'est 5 millions.
C'est 5 millions.
On ne peut pas dire que l'État est incapable même pendant 3-4 mois. Parce que la construction.
Déjà, vous avez dit le budget de l'immeuble intelligent.
Oui, c'est 100 millions. On a construit une grande compagnie d'aviation. C'est combien de millions? Il faut construire, il faut injecter de l'argent dans les secteurs de production. Parce que ces secteurs vont vous ramener les devises, vont vous ramener des retombées. N'injectons pas seulement l'argent dans les secteurs de consommation. Et on oublie que non, on consomme. Mais lorsqu'on injecte dans la production, donc nous produisons, nous vendons et nous avons les revenus.
Donc, M. Georges, on peut conclure en disant que ce n'est qu'un problème de volonté.
Oui.
On dit souvent que si l'on veut, on peut.
Vous savez, si on veut, on peut. J'ai toujours dit, nous réclamons tous les jours la volonté politique. Là, ça devient une chanson.
Une chanson, et elle viendra d'où cette volonté-là?
Chaque secteur, quand on est ministre des Mines, vous avez une loi devant toi. La meilleure des choses, c'est de dire que comment j'applique. Où sont les faiblesses dans l'application? Où est-ce qu'on peut corriger? Et la loi a donné des facilités. J'ai eu la chance de participer à l'élaboration, à la révision, à suivre comment le Parlement a adopté, comment les chefs de l'État a promulgué. Donc je connais au moins la loi. Mais je connais les faiblesses. Mais les dirigeants qui sont aujourd'hui doivent juste regarder dans mon secteur de l'industrie, voici ce que j'ai planifié. Mais je vais aller avec ça au gouvernement, que les autres membres du gouvernement considèrent aussi que dans ce secteur, si nous pouvons bien évoluer,
d'accord,
si on conjugue nos efforts et puis on met les moyens.
Monsieur Georges, merci. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Observatoire des ressources naturelles en Afrique australe, Sarawak RDC. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci beaucoup.
Et à la prochaine.
Merci beaucoup.